Je dois rajouter quelque chose concernant le programme de cette semaine. Et sans vouloir être emphatique, je voudrais reprendre ce que le prophète Joël nous dit de la part du Seigneur convoqué une cette assemblée. Et mardi, je voudrais vous inviter pour un temps spécial de prière, de 18h30 à 19h30, selon vos possibilités après le travail, de nous retrouver avant ensuite la prédication de la parole pendant une heure, pour remplir notre ministère de prière, et de prier pour nos autorités, et de prier pour la consolation, pour l'apaisement, de prier pour un esprit de grâce sur notre nation et un esprit de réveil dans nos églises. Mais nous voudrions aussi associer dans ce temps de prière la souffrance de l'Église. Certains, vous l'avez su, pas par nos médias qui étaient largement occupés par ce qui se passait en France, mais des choses terribles se sont passées, notamment au Nigeria, où un massacre à grande échelle a été perpétré par la secte Boko Haram. Ils ont fait un raid, détruit plus d'une vingtaine, 15 ou 20 villages, je ne sais plus, et plus de 2000 personnes ont été massacrées, dont un grand nombre de frères et sœurs. Alors, nous voulons prier pour tout cela, parce que l'oppresseur se dresse, et notre mission, c'est d'être comme un rempart spirituel. Alors je vous convoque, avec simplicité, mais avec foi, à ce temps de prière, si vous le souhaitez, pour que de 18h à 19h30, nous soyons là dans la présence du Seigneur, réclamant sa bénédiction sur son peuple et sur les nations. Amen. J'aurais certainement voulu prêcher un autre message en ce début d'année. Et je peux vous dire qu'il n'a pas été facile du tout pour moi de préparer ce message. Je me suis pris et repris à plusieurs fois. Mais jeudi, vendredi, chaque fois que je travaillais quelques instants à mettre quelques pensées sur le papier, c'est véritablement un esprit de fatigue, de pesanteur qui tombait sur mon cœur, comme si le ciel était fermé, que rien ne passait, que les choses étaient en lutte, en opposition. Et d'une manière étrange, chaque fois que je quittais ce thème pour travailler un autre message, une autre étude, alors l'inspiration revenait. Et je me disais peut-être, Seigneur, ce n'est pas ce que tu désires. Et finalement, vendredi soir, peut-être quand les choses se sont dénouées, eh bien, le Seigneur m'a conforté dans la préparation de ce message. Il est clair que nous avons vécu un temps très particulier. Ce n'est certainement pas un fait divers. Les hommes l'appelleront un acte de guerre. Nous, nous y voyons aussi un temps spirituel. C'est un acte spirituel. Derrière, à travers lesquels des esprits méchants se sont manifestés. Alors j'aurais voulu prêcher un autre message, surtout en début d'année, encourager le peuple. Mais c'est un peu comme pour Aaron, lorsqu'il perdit ses fils, il dit à Moïse, avec ce qui m'est arrivé. Et nous aussi, il nous est arrivé quelque chose qui nous a heurté de plein fouet, quelque chose qui nous a blessé, la haine, la terreur ont frappé violemment en plein cœur de notre cité, ici particulièrement à deux rues de notre église, à la station de métro la plus proche. Mais la mort a frappé aussi dans nos banlieues, à Montrouge, à Vincennes. Elle a frappé ses journalistes, elle a frappé ses policiers et elle a frappé ses amis juifs qui sont morts parce qu'ils étaient juifs. Nos rues ont été ensanglantées à cause de la haine de certains qui voient la grandeur de Dieu dans leurs actes barbares. Non, Dieu n'est pas grand en ce que des hommes font couler du sang en son nom. Il est grand en ce que son sang a coulé pour les hommes. Il m'était donc difficile aujourd'hui de prêcher sans tenir compte du traumatisme moral qu'a subi notre nation, notre ville, notre quartier, qui emportera les stigmates longtemps. Il m'était difficile de prêcher sans tenir compte de l'inquiétude, de la peur, voire même de l'angoisse des gens qui nous entourent. Mais par ce message, je ne veux certainement pas ce matin commenter les événements dont nous avons été les témoins. Je ne veux pas non plus vous dire voilà comment nous devons prendre parti ou nous positionner par rapport à ces événements. Vous êtes citoyen des cieux, vous êtes aussi citoyen de ce pays ou vous vivez dans ce pays. Je vais vous dire tout simplement à vous de voir si vous êtes Charlie ou non. Si cet après-midi vous voulez marcher dans cette ville pour défendre peut-être une certaine idée de la démocratie, ou pour dire, moi aussi de cœur je suis juif, avec ceux qui souffrent. Peut-être vous ne marcherez pas, mais ce que je vous demande, c'est au milieu de nous de ne pas commenter notre décision. Ce n'est pas là affaire de doctrine, c'est affaire de conviction et d'opinion dans le Seigneur. Nous ne devons pas juger cela. Que celui qui marche, marche. Que celui qui ne marche pas, ne marche pas, mais qu'il le fasse en pleine conviction devant Dieu. Et nous n'avons pas à exprimer un jugement. Ok ? Mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est de nous rappeler le sens de notre vocation et d'insister sur ce fait. Nous avons, en tant que disciples de Jésus-Christ et Église de Dieu, une place à tenir. Une place spirituelle, mais aussi une place sociale. Et si nous ne l'occupons pas, cela crée un grand vide spirituel que d'autres s'empresseront de combler. Alors nous disons que face aux événements dramatiques de cette semaine et à tous ceux qui se profilent devant nous malheureusement, l'Église ne peut pas, ne doit pas être désarmée, dépassée, sans voix. Nous ne devons pas nous cantonner à un message du type « nous vous l'avions bien dit ». Et nous ne devons pas effectuer un espèce de repli social en disant « fermons les portes, c'est trop tard ». Laissez-moi vous dire que c'est Dieu qui ferme la porte de l'arche. Ce n'est pas à nous à fermer la porte du salut. Ce matin, je veux au contraire rappeler que l'Église est particulièrement la nôtre dans notre quartier, notre contexte que nous venons de vivre. L'Église a une mission à accomplir. Un message à communiquer et doit être animé d'une motivation particulière, l'amour de Dieu pour les hommes, pour tous les hommes. Ce matin, je voudrais encore m'appuyer sur des paroles de Jésus, des paroles de l'Évangile. Vous savez, les paroles de l'Évangile, c'est à la fois les plus simples, mais ce sont aussi, par moments, les plus denses, les plus difficiles à vivre. Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous sommes le sel de la terre, parce que Jésus est le sel de Dieu. Un sel plein de la saveur de la vie éternelle, mais aussi un sel donné par Dieu pour préserver les hommes de la corruption du péché. Nous sommes la lumière du monde, parce que Jésus est la lumière de Dieu, venu éclairer tout homme. Et dans ces temps troublés qui le seront de plus en plus, l'Église de Jésus-Christ ne doit pas se replier sur elle-même, mais elle doit remplir sa mission. Elle doit briller dans ce monde et apporter la saveur de Jésus aux gens qui nous entourent. Nous sommes dans une saison favorable pour l'Évangile. Et pour accomplir cette mission, Jésus nous a donné tout ce qu'il avait de plus précieux, à commencer par sa vie, par son sang. Et il nous a laissé sa parole, l'évangile, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il nous a donné son esprit pour convaincre les hommes. Et c'est par eux et par eux seulement que nous brillons d'une lumière qui communique la vie. Par eux et par eux seulement que nous donnons une saveur de vie à ceux qui périssent. Ce n'est donc point en adoptant un langage humaniste ou des postures conciliantes avec le monde que nous le bénirons. Au contraire, c'est quand l'Église perd ce qui fait sa saveur, la puissance de l'Esprit, le message de l'Évangile, qu'elle est foulée ensuite par les hommes. Pour accomplir cette mission, comme une ville placée sur le sommet d'une montagne, Jésus a établi l'Église dans la position la plus élevée. Dieu a fait asseoir son Église dans les lieux célestes. Encore plus, il l'a fait asseoir sur son trône, à sa droite. Existe-t-il lieu plus élevé, montagne plus haute? Et si l'Église occupe réellement cette place, sa lumière brillera dans le monde parmi les hommes. Elle sera comme la ville sur la montagne qui ne peut être cachée. Mais occupons-nous la place qui est la nôtre. Siégeons-nous sur la montagne de Dieu afin de briller jusque dans la vallée. Ou nous contentons-nous simplement de garder cette lumière pour nous-mêmes? Je brille dans mon petit coin de ma petite lumière. Certains diront, mais on nous empêche de briller. On nous étouffe, on nous couvre sans cesse. Certes, mais je me demande si parfois cela ne nous arrange pas, au point que dans beaucoup d'églises aujourd'hui, l'idée courante devient « pour vivre heureux, vivons cachés ». Mais il est temps que l'Église ne se cache plus. Et si l'Église occupe réellement sa position en Christ, rien ne pourra l'empêcher de briller. Car existe-t-il un bras suffisamment long pour atteindre le trône de Dieu? Existe-t-il quelqu'un de suffisamment grand pour couvrir le trône de Dieu? Si nous sommes à notre position, rien ne nous empêchera d'éclairer cette génération. Mais plus encore, il est temps que l'Église libère sa saveur avant qu'elle ne la perde totalement. Il est temps que nous cessions de nous préoccuper de notre petit confort ou de notre prospérité ou de notre développement personnel pour nous rappeler enfin que Christ nous a confié une mission. Il est temps que nous considérons l'Église de Jésus-Christ pour ce qu'elle est. Un peuple de témoins et non pas un club de rencontres bibliques et non pas un club de coaching et non pas même, laissez-moi le dire comme ça, un club de prière ou un club de louange, mais un peuple avec une mission sur cette terre. Car proche est le temps où les ténèbres recouvriront entièrement notre monde, qui alors éclairera les hommes pour les guider vers le salut? Proche est le temps où l'Église aura été retirée de cette terre et qui empêchera alors le mystère de l'iniquité de se répandre dans le cœur des hommes. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure, de la dernière heure, et cette heure elle-même est avancée. Dieu nous trouvera-t-il encore sur la place publique, en train d'attendre? Ou alors nous trouvera-t-il dans sa vigne, en train d'œuvrer pour lui? Avant d'appeler le peuple, les nations, à changer de voie, à se tourner vers Dieu, l'Église premièrement doit revenir vers ce qui est l'essentiel de la parole, doit revenir vers ses fondamentaux. Remplissons-nous la mission que Jésus nous a confiée. Brillons-nous comme des flambeaux portant la parole de vie dans une génération perdue, ou devenons-nous une vie, une église sans saveur de vie, la saveur de Jésus-Christ? Vous savez, le sel. Quelques grains de sel, tant que vous ne l'avez pas mis dans la bouche. T'as l'apparence du sel. C'est lorsque vous le portez à votre bouche que vous savez si c'est réellement du sel avec une saveur. On peut avoir l'apparence de la piété, l'apparence de l'Église, la forme de l'Église, la forme de la Bible. Mais je vais vous dire, c'est quand les hommes nous mènent jusqu'à leur bouche, comme s'ils voulaient presque, pardonnez-moi l'image, nous manger, qu'ils verront si nous avons du goût ou si nous n'en avons pas. Il est temps que l'Église se lève pour remplir sa mission. Il est temps que l'Église revienne vraiment à ce qui est essentiel, qu'elle revienne à Dieu. Nous ne sommes pas dans un temps où tout est perdu ou trop tardif. Nous sommes encore dans un temps exceptionnel pour annoncer l'Église, l'Évangile de Jésus-Christ, pardon, à une génération perdue et sans repère. C'est à nous de relever le défi, à nous de relever la mission. Jésus voit une foule languissante et abattue qui n'a point de berger pour les conduire. Et il se tourne vers ses disciples. Vous êtes les ouvriers que je vais envoyer dans la moisson. Peut-être sommes-nous dans un temps comme celui de Mardoché et Esther. Qui sait ? Si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que notre assemblée a été plantée ici au cœur de ce quartier. Nous avons donc une mission, et cette mission s'accomplira à travers un message que nous devons porter à notre génération. Et ce message, c'est celui de la réconciliation avec Dieu, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Mais au point où nous en sommes, le focus premier de ce message doit être avant tout celui de la repentance, c'est-à-dire d'un véritable retour à Dieu. Notre nation doit revenir vers Dieu. Luc chapitre 13, versets 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit : « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grand pécheur que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien si 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Lorsque quelques personnes m'ont interrogé Jésus au sujet de ces Galiléens tués d'une manière atroce par Pilate, nous l'avons lu, Jésus n'a pas épilogué sur la politique, la religion, la loi, il en est venu directement à l'essentiel. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Jésus ne parlait ainsi non pas parce qu'il aurait été insensible face à cet événement, ce drame. Jésus a pleuré devant la mort, mais parce qu'il avait une autre perspective, une perspective élargie, une perspective éternelle, une perspective divine. Et pour lui, il y avait une mort, bien plus grave que celle du corps, celle de l'âme. Matthieu chapitre 10, verset 28, il nous dit « Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Et si nous nous sentons concernés par telle ou telle personne qui meurt dramatiquement, qui meurt de manière violente, comme ça s'est passé cette semaine, ou qui meurt dans un accident terrible, ou dans une catastrophe naturelle, ou d'une maladie foudroyante. Ces personnes ne sont pas forcément ni plus justes ou moins justes, parce qu'elles sont mortes ainsi que tous les autres. Et notre souci premier, doit être la question de leur âme. Si vraiment nous nous sentons concernés par ces gens qui nous entourent, alors de la part du Seigneur, nous devons partager avec elles un message qu'elles doivent absolument entendre, celui du retour à Dieu, celui de la repentance. Le message de la repentance est le premier que Jésus a proclamé, Matthieu 4, 17, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et cette dimension de proximité du royaume des cieux qu'annonçait Jésus en 100 ans doit être aujourd'hui reconsidérée par rapport à la proximité de son retour. Jésus est proche. Et ce n'est pas simplement cet événement, ces événements dramatiques de cette semaine qui vont nous amener à dire cela, mais c'est tout un ensemble d'événements depuis plusieurs années, des événements parmi les nations, des événements politiques, des événements religieux, économiques, écologiques, des événements aussi spirituels, des événements qui touchent Israël. Tout cela nous amène à dire « Jésus est proche ». Et cette proximité du retour de Jésus va nous ramener vers l'essentiel, le fondamental, vers l'appel à revenir à Dieu. Le message de la repentance est aussi celui que Jésus a confié à ses disciples lorsqu'il les a quittés. Luc 22, 45, il leur dit que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Le message de la repentance est donc le message central du Nouveau Testament. La repentance est l'appel pressant lancé par Dieu, par les apôtres, à tous les hommes. Un appel les pressant de se détourner de leur vaine manière de vivre pour revenir vers Dieu. Alors certes, la repentance est un message salé, peut-être trop salé même pour des bouches qui ne sont pas habituées à cela. Car la repentance est un message qui place l'homme, qui se croit juste face à son propre péché, face à sa propre nature corrompue. C'est un message qui place l'homme devant la réprobation de Dieu et la justice de Dieu. Et le message de la repentance n'a pas pour but de produire un bien-être, une satisfaction, un épanouissement. Au contraire, le message de la repentance a pour but de produire une tristesse, une conviction de péché, de justice et de jugement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tristesse dans les cœurs et dans les rues. Cependant, Paul écrit que la tristesse du monde produit la mort. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Mais il ajoute, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. La repentance est donc un message salé. Mais je vais vous dire aussi, c'est un message qui apporte une saveur nouvelle dans le cœur de l'homme qui le reçoit. Parce que c'est le message qui conduit au pardon et au salut. Je vais simplement partager cette idée. Le message de la repentance, c'est le message qui concerne la conviction de péché. Mais premièrement, c'est le message qui concerne le retour vers Dieu. Et ça doit être l'essentiel. Ah, je sais, c'est parfois plus prenant de dire « Ah, soyez convaincus de péché, vous êtes des pécheurs. » Oui, c'est vrai. Mais que sert-il de dire à des hommes « Vous êtes des pécheurs » si d'abord ils n'ont pas compris la présence de Dieu? C'est en revenant vers Dieu qu'on comprend qu'on est pécheur. Ça ne sert à rien de dire à cette nation « Vous êtes des pécheurs, vous êtes des pécheurs. » Vous savez, en faisant cela, on ne fait pas mieux que la religion. Règle sur règle, principe sur principe, précepte sur précepte. Ce que notre peuple a besoin, à cause de 200 ans, 300 ans d'histoire, philosophique, culturelle, politique, c'est de revenir à ses racines, de revenir à Dieu lui-même. Et en revenant à Dieu, sur ce chemin-là, ils comprendront qu'ils sont pécheurs. Notre tort serait malgré tout d'édulcorer le message de la repentance. Et au lieu de présenter un message salé, de présenter un espèce d'évangile sucré pour faire plaisir à la bouche de l'homme, un espèce d'évangile allégé, un évangile de prospérité, de tout ira bien, un évangile expurgé du sang de Christ, de la condamnation du péché et du jugement éternel. Oui, les hommes ne veulent pas en entendre parler. Mais aucun homme ne sera sauvé à cause d'une bénédiction, matérielle ou physique. Le seul moyen pour qu'un homme soit sauvé, c'est la prédication de la croix, de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La repentance, c'est le message que notre génération doit entendre. Parce que nos contemporains jouent volontairement avec le péché. Et ils repoussent sans cesse les limites. Et comme le dit l'apôtre Paul, ils s'encouragent eux-mêmes à repousser, voire à explorer les limites du péché. Et en faisant cela, ils agissent consciemment contre Dieu. L'Église en mission doit relever le défi d'apporter dans ce monde le message qu'il ne veut pas entendre. Revenez à Dieu et changez de vie. Sans quoi, ils périront tous. Mais encore une fois, pour que nous ayons de la crédibilité dans ce message, pour que ce ne soit pas simplement que de vains mots et des paroles religieuses, il nous faut nous-mêmes d'abord revenir pleinement à Dieu. Qu'en est-il des compromis que nous pouvons garder dans nos cœurs, des situations que nous tolérons, de ces espèces de zones que nous gardons à l'ombre de la lumière de Dieu, nous protégeant par des paravents de bons raisonnements? La lumière de Christ éclaire-t-elle tous nos cœurs, toutes nos vies? Il est temps que nous revenions totalement vers le Seigneur. Le message que nous portons afin d'accomplir notre mission est difficile à entendre par nos contemporains. Et vraiment, il doit y avoir dans le cœur et la bouche de ceux qui partagent ce message une véritable motivation, celle de l'amour. Le message de la repentance est très, très difficile, non seulement à donner, à partager, mais je le disais, à entendre. Vous abordez n'importe quelle personne et vous commencez à lui dire qu'elle doit revenir vers Dieu, qu'elle serait pécheresse, et ils vous diront: comment cela? Vous dites que je suis pécheur et que je vais périr si je ne reviens pas vers Dieu. Mais ils vont nous dire: mais moi, je prends la justice sociale. Je prends la tolérance, je veux faire le bien, je milite dans des œuvres humanitaires, je milite pour l'environnement, l'égalité des races et des sexes, je prends la paix entre les religions, entre les nations et les peuples, je suis démocrate, je suis pacifiste. Et comprenons que le message de la repentance est un choc pour ceux qui l'entendent, pour des oreilles et des cœurs qui n'y sont pas préparés. Nous devons parler à une génération qui n'a jamais entendu parler de Dieu. Nous sommes un peuple du milieu duquel Dieu a été banni depuis plus de 200 ans. Dieu n'est plus dans notre culture, sinon que pour s'en moquer. Et ce peuple a perdu toute notion même de ce qu'est la crainte de Dieu. Et nous disons à ces gens qui nous entourent: revenez vers lui pour avoir la vie. Changez de vie. Tant que vous demeurez dans cette vie, vous êtes sur un chemin de perdition. Et c'est un choc pour les gens. Quand on est jeune, 16, 17 ans, ma foi, il y a toute la vie devant soi. Mais quand il faut témoigner à des personnes de 40, 50, 60 ans et plus, et qu'on leur dit: vous vivez d'une manière vaine, c'est un choc pour eux. Ils vont nous dire: oh, je sais, par moments, j'ai fait des bêtises. Mais enfin, de là à me dire que je suis perdu, mais on ne m'a jamais pas dit ça. Pourquoi ce jugement sur ma vie? Pourquoi cette parole sur ma vie? Le message de la repentance, c'est une épée. C'est une épée terrible. C'est une épée pointue. C'est une épée tranchante. C'est une épée pénétrante. Il faut savoir la manier. Parce que ce message peut devenir carrément inaudible par ceux qui nous entourent, surtout quand nous prenons ce message comme une menace. quand nous présentons ce message de la repentance comme un ultimatum. Mais l'appel à la repentance, ce n'est pas un ultimatum ni une menace, c'est un appel d'amour de la part de celui qui a tant aimé les hommes qu'il leur a donné celui qui était cher dans son cœur, son Fils unique. Comment appeler les hommes à la réconciliation avec Dieu si nous n'avons que des paroles qui tuent et qui coupent les oreilles et les têtes? Dieu aime tellement les hommes, quel que soit leur péché, leur transgression, leur rébellion, qu'il pousse et repousse le jour du jugement. Et il fait de chaque jour qui s'écoule 24 heures de patience supplémentaire afin que au moins un homme en plus se tourne vers lui. La Bible dit chaque jour que Dieu tend les mains vers des hommes et des nations qu'il ne connaissait pas, car il ne désire la perdition d'aucun homme. Et c'est pour ça qu'il les appelle à se détourner de leurs péchés et à revenir vers lui. Dieu aime les hommes, il aime même la France. Pourtant, la France ne l'aime guère. Bon, ce ne sont pas nos musées, nos palais, ni même notre gastronomie, nos avions, nos fusées, nos trains qu'il aime. Il aime peut-être ce qu'il y a de moins aimable en France, c'est les Français. Et il est peut-être le seul que nous connaissons qui n'est pas français à aimer les Français. Mais il nous aime. Que nous soyons athées, catholiques, juifs, musulmans, il nous aime. Que nous soyons blancs, noirs, jaunes, métis de tout mélange, il nous aime. Du 16e ou de la Courneuve, il nous aime. Diplômés de Centrale ou d'un CAP, il nous aime. Lecteur de Charlie ou du Figaro, il nous aime. Il ne veut en condamner aucun. Il ne veut qu'aucun se perde. Il veut que tous parviennent à la repentance. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Jésus le dit, l'enfer a été créé pour Satan et pour les démons. Ce que Dieu veut, c'est que les hommes, en revenant vers lui, reçoivent cet héritage qu'il a préparé pour eux dans les cieux. Et c'est un appel pressant qu'il lance aux hommes. Revenez à moi. Revenez à Dieu. C'est la démonstration d'amour du Seigneur. L'amour, c'est la force qui donne de la saveur et de la substance à notre témoignage. Sans amour, nous ne sommes rien. Sans amour, même nos paroles les plus justes ne sont rien. C'est très facile. Je vais le dire comme ça parce que je ne crois pas que cet homme était du tout comme ça, mais c'est très facile de jouer à Jean-Baptiste. Et beaucoup aiment cela. Parce que ça donne un aspect de sainteté. Et alors, leur message est simple. Repentez-vous, race de vipères. Oui. Et alors ils sont auréolés d'un prestige que nous leur accordons et s'enveloppent de vêtements de prophètes et ils vont manger des sauterelles et du miel. Mais la repentance est un message tellement pointu, tellement tranchant, tellement pénétrant que sans amour, il peut faire de grands dégâts. Et je crois que Jean-Baptiste et encore plus Jésus ont été ceux qui ont prêché la repentance avec le plus d'amour. Vous connaissez l'histoire de ce jeune homme riche qui vint vers Jésus avec une bonne question. On aimerait bien que tous les gens qui nous accostent nous posent cette question: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Et ce jeune homme se pensait juste, comme beaucoup autour de nous se pensent juste. Et puis le Seigneur lui a dit une chose terrible. C'était un appel à la repentance, d'une certaine manière. Va et vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. C'était un appel à revenir à Dieu, à venir au Seigneur. Et l'évangile est terrible. L'évangile est... Mais tout à nu et à découvert. C'est une parole violente. Mais Jésus l'a dit, d'une certaine manière. Vous vous rappelez ce qu'il est écrit avant ? Il le regarda et il l'aima. Et il l'aima. Il est impossible de prêcher la repentance sans amour. Que Dieu nous donne de l'amour, afin que nos paroles ne soient pas des paroles qui tuent, mais des paroles qui sauvent. L'amour, c'est ce dont notre génération a besoin. Car qu'est-ce qui amènera les hommes à quitter le chemin de perdition sur lequel ils sont pour se tourner vers Dieu, sinon l'amour? Et qui leur communiquera cet amour, sinon ceux dans les cœurs desquels il a été répandu par le Saint-Esprit, c'est-à-dire nous? Je veux finir par ce point. Gardons-nous de discours extrémistes, radicaux, insultants, méprisants, pleins de colère. Car comment amènerons-nous les hommes à la réconciliation avec Dieu si nous sommes des loups vociférants dans le monde ? Il peut y avoir de la colère dans nos cœurs, mais la colère ne fait jamais l'œuvre de Dieu. La colère ne fait qu'enfoncer les hommes dans la colère. Le Seigneur nous invite à aimer. Notre force, notre distinction, c'est l'amour. Et Paul écrit même que votre douceur soit connue de tous. Jésus ne nous envoie pas comme des lions parmi les loups, et comme des agneaux parmi les loups. Gardons cette douceur de Christ en nous. Et gardons-nous de rejeter quiconque, je dis bien quiconque. Car qui sommes-nous pour dire qu'un tel est digne d'être aimé de Dieu et non un autre, à cause de son ethnie, à cause de sa religion? Jésus nous a donné l'exemple. Il était sur la croix. On avait transpercé ses mains par des clous, ses pieds par des clous. Et quelles furent les paroles du Seigneur ? Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus nous a laissé des paroles précieuses. Il nous invite à être des pacificateurs. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et il nous laisse une parole, là encore, une parole difficile. Matthieu 5, 44. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Plus que jamais, dans ce temps où les ténèbres tombent sur notre monde, que notre lumière luise devant les hommes et que la paix de Dieu garde nos cœurs, et le Dieu de paix sera avec nous. Et enfin, que l'amour de Christ presse encore plus fort nos cœurs, afin que nous puissions le donner autour de nous sans compter, et le donner d'abord à celui qui est notre ennemi. Voilà l'Évangile. Voilà la mission de l'Église. Et frères et sœurs, peut-être êtes-vous engagé avec le Seigneur depuis des années, d'autres moins. Combien de prédications avez-vous entendues, de dons spirituels, de prières, de livres avez-vous lus? Toutes ces choses ont un but, nous préparer pour le jour où nous sommes. Nous parlons de conquête, nous parlons de démonstration de foi, nous parlons d'opération du Saint-Esprit. Mais c'est maintenant que tout cela va devoir être mis à l'œuvre. Le prophète Jérémie nous dit, mais si déjà en marchant avec le piéton, en quelque sorte, tu t'essouffles, qu'est-ce qu'il en sera lorsque tu devras courir avec le cheval? Et les temps sont en train de s'emballer. Et l'Église de Jésus-Christ doit tenir sa position. La première chose que nous devons faire, c'est de revenir à Dieu et de nous débarrasser de tout ce qui n'est pas digne du Seigneur dans nos vies, et de nous débarrasser dans l'Église de tous les enseignements de camelots de la vente qui nous ont fait perdre du temps pour revenir à l'essentiel, la prédication de l'Évangile. Serons-nous là, présents, dans le temps qui vient, non par notre force, mais par la puissance du Saint-Esprit? Que votre cœur soit dans la paix. Ne vous laissez pas troubler. Ces choses sont écrites, elles doivent arriver. Christ nous y prépare et nous garde. Seigneur, notre Dieu, notre Père, notre cœur est peiné, attristé par toutes les choses qui se sont produites cette semaine. Notre quartier lui-même a résonné des cris des armes, du bruit des armes.